Amen.
Bonjour à tous et à toutes. C'est normal, la première est obscurcie. Les prochaines peintures apparaîtront bien plus nettes. Les peintures qui vont nous accompagner aujourd'hui sont toutes de Marc Chagall. Qu'est-ce qui nous rassemble? Est-ce que ce qui nous rassemble, c'est que nous sommes des individus qui ont la même croyance? Alors c'est vrai, mais y a-t-il quelque chose de plus? Pourquoi avons-nous été appelés? Qu'est-ce que nous sommes appelés à vivre et à faire? Voilà des thématiques qu'on a commencé à explorer déjà depuis d'autres séries, par exemple avec 1 Pierre. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de prédications. Et dans cette série, nous voulons continuer d'explorer cette question. Qu'est-ce que c'est que le peuple de Dieu? Ce que l'Exode dit du peuple de Dieu, c'est que nous sommes un peuple libéré pour recevoir et rayonner la présence de Dieu. Alors nous allons commencer, on va explorer cette thématique au travers de multiples prêches, mais aujourd'hui on va commencer à l'explorer au travers du chapitre 3. Alors qu'est-ce que je dois faire là pour que ça marche? L'allumer peut-être, on, yes. Voilà. Dans ce prêche intitulé « Le retour de Dieu ». Alors je vais lire les chapitres, enfin le chapitre 3, les versets 1 à 10, mais mon prêche aujourd'hui va se baser plus largement sur les 7 premiers chapitres essentiellement qui racontent l'appel de Moïse. Et à partir du chapitre 7, on a la confrontation avec le Pharaon qui commence. Mais principalement sur ce texte que je vous lis maintenant, Exode 3, 1 à 10. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Il regarda le buisson, était en feu, et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Il dit, « Me voici. » Il dit, « N'approche pas d'ici. » Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Il dit, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur dit, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périsite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Il y a beaucoup d'échos, est-ce que... Ouais. Nous voyons ici la peinture de Chagall qui représente la chute lorsque Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Le récit de la création se termine par l'expulsion d'Adam et Ève. Ils sont expulsés du jardin d'Éden. L'humanité part alors pour un long exil, un exil loin de sa patrie, un exil loin de la présence de Dieu. Dès lors, on voit que Dieu communique parfois avec les hommes, ou même fait une apparition étonnante ici ou là. Mais la présence de Dieu ne réside plus sur terre. Jusqu'au jour où Moïse voit un buisson qui brûle sans brûler, et à qui Dieu dit « Je suis descendu ». Dans l'Exode, nous assistons au retour de la présence de Dieu sur terre, et elle va rester en Israël jusqu'à l'exil. La présence de Dieu permanente dans le tabernacle et plus tard dans le temple indique qu'à l'Exode, nous franchissons une étape capitale dans la restauration du monde que Dieu est en train d'opérer. C'est un pas de plus vers la nouvelle création, puisque dans la nouvelle création, nous voyons que la nouvelle Jérusalem est appelée le tabernacle de Dieu. C'est un tabernacle, la nouvelle Jérusalem, où l'humanité est dans la présence ouverte de Dieu. Il n'y a plus rien entre Dieu et nous. Alors là, nous vivons une étape vers ce but. Et cette présence, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, nous l'avons avec nous aujourd'hui. En effet, comme l'avaient annoncé les prophètes, la nouvelle alliance est un nouvel exode, initié par une nouvelle descente de Dieu sur terre, dans le Fils d'abord et dans le Saint-Esprit ensuite. Alors maintenant que nous avons vu que l'objet principal de l'Exode, c'est le retour de la présence de Dieu sur terre, nous pouvons nous demander, mais qu'est-ce que cette présence de Dieu a comme impact sur le peuple de Dieu et sur le monde ? On va explorer cette question au cours de toute cette série. Et dans le chapitre 3, nous voyons trois aspects fondamentaux par rapport à cette question. De quel est l'impact sur le peuple de Dieu et sur le monde. Premièrement, et peut-être un peu étonnamment pour nous qui sommes déjà dans la nouvelle alliance, on voit que la présence de Dieu est une menace pour l'homme et que l'homme a peur de cette présence. Nous voyons un contraste saisissant entre ces deux tableaux de Chagall. Le premier représente la création de l'homme. Voyez la tendresse de cet ange pour l'homme qui vient de naître de la terre. Vous voyez la totale dépendance de l'homme en Dieu. Et puis après la chute, vous voyez Adam et Ève qui sont chassés par l'ange. Ils ont peur. Il y a comme une hostilité qui est présente. Dans notre texte, après avoir appelé Moïse, la première chose qu'il lui dit, c'est « N'approche pas d'ici. Retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » L'homme avait été fait à l'image de Dieu et donc était saint. Mais maintenant, sa nature déchue ne lui permet plus d'entrer dans la présence de Dieu sans danger de mort. Moïse se voila la face. Il avait peur de voir Dieu. Je me souviens d'un soir, alors que je n'étais pas converti, je connaissais déjà Priscille, ma future épouse, j'étais chez elle et j'ai tout d'un coup senti une présence qui remplissait la pièce. J'ai tout de suite su que c'était la présence de Dieu et j'étais terrorisé. J'ai dit à Priscille que j'avais peur. Elle ne comprenait pas très bien qu'est-ce qui se passait. C'est cela qui se passe lorsque l'homme pécheur se retrouve dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il faudra la loi, qui va venir à partir du chapitre 20, le tabernacle et tout le système sacrificiel dont l'Exode parle du chapitre 25 jusqu'à la fin au chapitre 40. Pourquoi est-ce qu'il faut tout ça? C'est pour que Israël puisse recevoir cette présence, eux qui sont pécheurs, pas encore lavés par le sang de Christ, sans être dévorés par cette présence. C'est en effet à cause du sacrifice de Jésus que nous pouvons entrer dans le Saint des Saints sans risquer de mourir. Par son sacrifice, nous recevons à notre tour cette présence parmi nous, et même en nous, par le Saint-Esprit. Si bien que nous devenons le temple de Dieu, comme le dit Paul, ou aussi Pierre, le temple de Dieu pour le monde. Alors, cette présence de Dieu, elle est menaçante pour l'homme pécheur, parce que paradoxalement, lorsque la présence de Dieu est là, Dieu est proche de nous. On se rapproche de Dieu, mais on se rapproche d'un Dieu très saint. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on voit dans notre passage, c'est que la présence de Dieu parmi nous implique que nous avons une intimité avec Dieu. Dans notre texte, lorsque Dieu parle, il utilise des verbes très sensoriels qui montrent sa proximité avec nous. Il dit « j'ai vu, j'ai entendu, je connais ». Dieu s'est rendu palpable, il s'est rendu proche. Il est descendu dans notre monde, dans le chaos de notre monde. Il s'est rendu vulnérable même en s'alliant avec un peuple qui est parfois rétif. Ce peuple, il l'appelle « mon peuple ». Et plus tard, au chapitre 7, il va décrire Israël de la manière suivante. « Israël est mon fils, mon premier-né. » On retrouve à la fois, on a cette terreur face à Dieu, sa sainteté menaçante, et de l'autre côté, on retrouve cette tendresse que Dieu a eue pour Adam, son premier-né. En effet, la présence du Dieu qui est tout autre, qui est très saint, c'est aussi la présence du Père. Et cette relation de Père à enfant s'intensifie encore dans la Nouvelle Alliance, depuis que le Fils unique de Dieu est venu. Lui qui est aussi appelé le premier-né de toute la création. En lui, nous recevons ce statut d'enfant de Dieu. Et en effet, depuis que j'ai rencontré le Christ, je peux dire que cette présence de Dieu n'est plus une menace, mais une intimité avec lui. Alors, entrer dans la présence de Dieu, du Dieu très saint, qui est aussi notre Père, c'est maintenant, la troisième chose qu'on voit dans notre texte, c'est que c'est aussi d'entrer dans ses plans. Ses plans pour nous, mais ses plans pour le monde. On voit ici de nouveau ces deux tableaux, la création et la rencontre de Moïse avec Dieu. Dès le départ à la création, Dieu délègue une partie de son règne à l'humanité. Il leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. » Dans ce tableau de Chagall, on ne voit pas seulement Adam qui vient de naître dans la tendresse de Dieu. On voit aussi cette roue qui tourne, cette puissance créatrice de Dieu qui est déléguée aux hommes pour se multiplier et pour être eux-mêmes créatifs. Ce n'est donc pas étonnant qu'après la chute, lorsque Dieu commence son œuvre de nouvelle création, il implique aussi les hommes dans son plan, comme il l'avait fait pour la création. Mais cette fois, c'est un peuple spécifique qu'il appelle. le peuple, celui qu'on appelle le peuple de Dieu, la descendance d'Abraham. On pourrait dire que le peuple de Dieu est un sacrement de la présence de Dieu dans le monde. C'est un véhicule que Dieu s'est choisi pour agir dans le monde. Dans notre texte, on voit l'appel spécifique de Moïse. Lui, il va être l'instrument de Dieu pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Et Dieu ira même jusqu'à lui dire cette phrase assez étonnante, « Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon. » Il est le représentant de Dieu devant le Pharaon. Et le texte hébreu a cette phrase très forte, « Je te fais Dieu pour le Pharaon. » L'appel de Moïse, il est basé sur cette présence de Dieu. Regardez cette peinture, on voit derrière les petits moutons. En effet, pendant 40 ans, Moïse est un berger. C'est ici le berger qui rencontre Dieu dans le buisson ardent. Et après cette rencontre, voyez la transformation. On a ce Moïse lumineux qui emmène tout le peuple derrière lui. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Ce qui s'est passé entre deux, c'est qu'il a rencontré la présence de Dieu. Et pas seulement il l'a rencontré, mais cette présence est restée avec lui de manière permanente, puisque Dieu lui dit « Je serai avec toi ». Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, cette phrase « Je serai avec toi » ? Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, nous dit Jésus. Et en effet, c'est la présence de Jésus qui permet que nous soyons ses témoins. Il dit la chose suivante, « Vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Alors, dans cette dernière partie du prêche, j'aimerais explorer un tout petit peu plus la question de l'appel. Notre appel, il peut être placé sur notre vie bien avant qu'il prenne forme, parfois même avant qu'on en soit conscient. Pour Moïse, on voit que, alors qu'il est un tout petit bébé, il n'est pas encore vraiment conscient de ce qui lui arrive, il y a déjà un appel qui est placé sur sa vie. On voit ici cette peinture de Chagall, toujours, qui montre la princesse égyptienne qui recueille Moïse de l'eau du Nil. On voit que Dieu dirige la vie de Moïse vers un but précis dès sa naissance. Il se peut que vous vous rappeliez de quelqu'un qui vous a une fois donné une parole, une image. Ou alors peut-être vous avez reçu une prophétie, une prière particulière à une époque de votre vie où vous n'étiez pas encore, dont vous ne vous souvenez plus. Mais c'est un parent qui peut vous donner ce témoignage. Lorsque le grand-père de mon épouse Priscille est venu la voir à la maternité de Bienne, il a prié pour son Aquilas. À ce moment, je vivais à Bâle et j'avais 4 mois. Et bien sûr, j'étais absolument pas conscient de cette prière. Même si vous avez reçu un appel, cet appel peut mettre du temps à se réaliser, suivant nos errances, suivant les vicissitudes de la vie. Notez que Moïse a eu un début assez extraordinaire, recueilli par une princesse égyptienne des eaux du Nil. Mais à l'âge de 40 ans, il devient meurtrier, paria, et puis il mène des moutons dans le désert, s'étant marié à une femme midianite. Il semble être bien éloigné de l'appel qu'il avait au départ. C'est seulement à l'âge de 80 ans, et là je me tourne vers nos aînés, que Moïse entre dans son appel. Et quel appel, quelle puissance! face à cet appel. Donc premièrement, je vous ai juste rappelé qu'un appel peut être posé sur notre vie il y a très longtemps en arrière. Peut-être on ne s'en souvient plus. Deuxièmement, cet appel peut être reporté pendant très longtemps. Et même à travers des errances. Mais il se peut aussi que vienne un jour où votre appel devient plus clair. Vous recevez une parole forte du Seigneur. Vous recevez une conviction profonde. Vous rencontrez Dieu et il vous envoie. Mais qu'est-ce que Moïse fait à ce moment-là? Il objecte 5 fois de suite contre son appel. Il commence par « Qui suis-je pour ?» Allez faire ce que tu me demandes de faire. J'ai mis 3 petits points parce que vous pouvez mettre ce que Dieu vous confie à la place. Qui suis-je pour ? Moïse, il doute qu'il soit l'homme de la situation. Et à ce doute-là, Dieu ne lui répond pas « Mais non, t'es un super gars, t'as tout ce qu'il faut. » Il lui dit « Je serai avec toi. » C'est la présence de Dieu avec lui qui le rend capable de faire son ministère. Deuxième chose, ils ne me croiront pas. Dieu nous envoie vers une certaine population, je ne sais pas, ça peut être vos collègues, vos voisins, les personnes à l'intérieur de la communauté, à l'extérieur. Et souvent, on peut douter que les personnes vers qui Dieu nous envoie puissent recevoir le message, comme Jonas, hein. Et Dieu, il lui répond, « Je vais te donner des signes qui attesteront tes paroles. » Dieu lui promet d'accompagner ses paroles de signes. « Je ne suis pas doué. » Il insiste, ouais, « Je ne suis pas fait pour ça, il me manque les dons. » Puis là, Dieu il lui dit, « Mais c'est qui t'a créé là ?» Parce qu'en disant « je ne suis pas doué », tu es finalement en train de dire à celui qui t'a fabriqué qu'il n'est pas très doué ou bien. « Qui est-ce qui a créé la bouche ?» lui répond-il. « C'est moi qui est ton créateur. Alors fais-moi confiance que je t'ai donné ce qu'il faut. Envoie quelqu'un d'autre. » C'est les paroles de mot pour mot de Moïse, hein. J'invente rien. Là, il faut avouer que Dieu, il commence à chauffer. Il commence vraiment à s'énerver. Il se met en colère, il a dit. Mais dans sa colère, il fait un compromis. Il dit, bon, ok, ton frère Aaron viendra avec toi. Il parlera pour toi. Dieu peut des fois même faire des compromis avec nos hésitations. Et finalement, Moïse dit, « Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui suis incirconcis des lèvres ?» Il recommence avec les deux mêmes choses. Il doute de ses capacités à lui et il doute des capacités de ses auditeurs à recevoir le message. Et c'est là que Dieu lui répond justement cette phrase très forte, « Je t'ai rendu Dieu pour le Pharaon. » Alors finalement, Moïse entre dans son appel et au travers de son obéissance, parce que Dieu l'utilise quand même très fortement pour faire ce qu'il fait dans l'Exode, même s'il agit aussi lui-même directement. Au travers de son obéissance, Dieu intervient dans l'histoire de manière dramatique et libère son peuple. Alors peut-être que vous êtes dans la situation où vous n'avez pas conscience d'avoir reçu un appel sur votre vie. Ou alors vous savez qu'un appel est posé sur votre vie, mais les circonstances de la vie font que vous n'avez pas encore pu rentrer dans ces plans. Ou alors peut-être que vous avez vécu un moment du buisson ardent. C'était très clair, très net, mais vous êtes dans la phase de la résistance. Ou alors, peut-être, comme moi je l'ai expérimenté très fortement cette semaine, puisque Dieu m'a préparé à être auditeur de mon propre prêche. Peut-être vous êtes déjà engagé dans votre appel, mais vous êtes dans des doutes de votre capacité à le faire. Et des fois, on doute aussi de l'action de Dieu. Pour découvrir notre appel, ou pour y entrer, ou pour y réentrer, nous devons revenir à la présence de Dieu. Le Dieu, on l'a vu, le Dieu trois fois saint, le tout autre, mais aussi le Dieu qui s'est fait proche des pécheurs, comme on le voit ici sur la croix. Il est venu parmi nous pour nous unir à lui dans son amour de Père. Il est descendu et il est venu résider non seulement parmi nous, mais en nous, par son Esprit. Et il nous confie son fardeau pour le monde. Ce tableau, appelé la crucifixion blanche, a été peint en 1938 par Chagall, suite à la nuit de cristal, qui est le pogrom qui a démarré la Shoah en Allemagne. La croix est le signe que Dieu nous sauve, mais il est aussi le signe que Dieu s'identifie aux souffrances du monde. Ainsi, lorsque nous rentrons dans la présence de Dieu, non seulement nous sommes équipés pour notre appel, mais nous recevons le cœur de Dieu pour le monde. L'appel, avant d'être une mission, c'est une relation d'amour. C'est un amour que nous recevons de Dieu et c'est un amour que nous donnons à Dieu. L'appel, c'est un « je t'aime » qui vient avec une interrogation « m'aimes-tu ?» Alors, j'aimerais vous proposer maintenant de prier pour ceux qui aimeraient faire un pas supplémentaire. Et pour moi-même. Si vous êtes dans la situation de n'avoir aucune conscience d'un appel particulier, ou si vous savez avoir un appel, mais les circonstances de la vie vous empêchent pour l'instant d'y rentrer, ou si vous savez que vous êtes dans la résistance contre cet appel, mais que vous aimeriez maintenant renoncer à cette résistance, ou si vous êtes déjà dans votre appel, mais que vous êtes dans les doutes, dans le découragement, et que vous aimeriez vous réengager, je vous invite alors à vous lever pour marquer cet engagement que vous voulez prendre envers Dieu, ou cette étape supplémentaire que vous voulez franchir. Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir, peut-être 30 secondes comme ça, et puis ensuite je me mettrai à prier pour vous et pour moi-même. Seigneur, j'aimerais commencer par te prier pour ceux d'entre nous qui ont répondu à ton appel et qui y sont à fond. Et puis, tu vois que pour certains d'entre nous, l'appel est une difficulté actuellement. Tu vois que pour certains d'entre nous, il n'y a pas de conscience véritable d'avoir reçu un appel. Il y a besoin que tu nous parles. Il y a besoin que tu te révèles à nous de manière puissante, que tu nous communiques les œuvres bonnes que tu as prévues d'avance pour notre vie. Pour certains d'entre nous, nous savons qu'il y a cet appel, mais tu vois qu'il y a des choses qui nous bloquent dans notre vie où on ne sait pas comment passer à travers. On est dans ce désert à garder des moutons alors que tu nous appelles à autre chose. On te prie d'intervenir pour débloquer cette situation, Seigneur. Tu sais que pour certains d'entre nous, nous avons déjà entendu ta voix par rapport à notre appel. Nous sommes conscients de ce que tu veux, mais nous avons toutes sortes d'objections. Nous voulons maintenant renoncer à ces objections et te faire confiance que c'est par ta présence avec nous que nous pouvons faire ce que tu nous demandes de faire. Que tu nous équipes pour ce à quoi tu nous envoies. Et pour certains d'entre nous, nous sommes déjà dans cet appel que tu as placé sur notre vie, mais nous sommes dans les doutes par rapport à nous-mêmes. Peut-être nous en avons marre, nous sommes fatigués. Seigneur, on veut revenir à toi, sachant que l'appel que tu mets sur nos vies est premièrement un amour que tu nous donnes. Et à ta question, m'aimes-tu, nous te répondons, oui Seigneur, tu sais que nous t'aimons. Et nous voulons aller à ta suite. Nous voulons nous remettre en marche en te faisant confiance. Seigneur, bénis-nous et envoie-nous. Au nom de Jésus, Amen.